cours de philosophie du vivant par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard le 6 avril 95.
Le moment dans le développement de la personne. Le premier moment de l'intelligence spéculative. Ce qui est sûr, c'est que l'intelligence pratique se développe en premier lieu selon l'ordre génétique. Prudentiel et même avant l'aspect artistique, le jeu est le développement premier de l'intellect artistique, puis l'intellect affectif, puis prudentiel, c'est trois, et après le développement spéculatif. Alors, le développement spéculatif, sûrement que le premier moment, c'est l'interrogation. Je crois. C'est le passage de ce qu'on constate, ce qui est, à quelque chose de possible. L'interrogation étant dans la vie de l'intelligence, ce qu'il y a de fondamental par rapport à toute hypothèse. Une hypothèse est une interrogation. Or, l'hypothèse, ça nous met dans une orientation de recherche. Et une hypothèse regarde le possible. Est-ce que cela peut arriver? Est-ce que cela est bien arrivé? Hypothèse. Alors, l'éveil de l'intellect spéculatif se fait par l'hypothèse. Donc l'interrogation, qu'est-ce que c'est que l'éternité, n'est pas nécessairement, comprenez bien, n'est pas nécessairement l'éveil de l'intellect spéculatif. Pourquoi ? Parce que dans une famille où le père fait des études, est professeur, savant, philosophe, l'enfant peut, dans un état d'admiration vis-à-vis de son père, répéter certaines choses qu'il a entendues. Maman, qu'est-ce que c'est que l'éternité ? Alors, la mère aurait dû dire, mais maman dit, pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce que pour toi l'éternité? Ça aurait été astucieux de la part de la mère, pour voir d'où venait ce mot éternité. Quand avait-il entendu éternité? C'est nécessairement le Père éternel, tu vois, ça peut pas être autrement, qui est d'abord fait naître en lui le point de vue de l'éternité. C'est lié à l'autorité. Vous voyez, c'est pour ça que c'est très difficile. C'est ce que Platon se pose la question. L'éveil de l'intelligence, est-ce que c'est les mots ou est-ce que c'est l'expérience? Il peut y avoir un éveil de l'intelligence par les mots. On répète des mots. Il entend l'éternité. Très possible dans un milieu chrétien. Et il s'est posé la question avec un puisque c'est une question qui c'est possible, vous savez, les enfants entendre beaucoup plus de choses qu'on ne pense. Dans des discussions en famille, libres. Il faut toujours être très attentif. On voit ça dans l'écriture. La Samaritaine. Quand elle était petite fille, la Samaritaine. On verra la petite fille, la Samaritaine, dans le ciel. Elle devait être pas bête du tout. Religieuse, profondément. Et elle entendait les discussions avec les Juifs. Vous continuez d'adhérer sur le lieu, mais Dieu t'est révélé. C'est du lait de vache ou de chameau ou de chamelle ou de ne précise pas. Donc on aurait dû prendre le lait et non pas le vin. Mais on sait bien les querelles terribles qui arrivent en Suisse pour tous ceux qui sont contre l'alcool. Alors il y a eu le père vicaire qui a fait un article sur l'Ancien Testament en montrant la place du vin dans la Révélation. Il a reçu des lettres d'injures. Et c'est curieux comme les gens sont passionnés sur des détails, mais qui expriment quelque chose de profond, puisque c'est symbolique. Alors, on voit bien comment un enfant reçoit et peut répéter. S'il n'a pas peur, il répète. Je crois qu'il n'aurait pas posé la question devant son père. Si éternité, ce qu'est l'éternité, l'avait entendu du père. La mère, on peut lui poser plus facilement. Alors oui, c'est très difficile. Est-ce que c'est l'éveil de l'intelligence, là, ou bien c'est une répétition? Donc, Platon se pose la question. L'éveil de l'intelligence ne se fait pas par les mots? Ou bien est-ce que ça se fait par les mots? Ou l'intelligence, ou la réalité, l'expérience? Et il montre que de fait, il y a toujours les deux. Sartre a fait la même chose, son petit livre sur les mots, en montrant que le langage pouvait fausser une éducation. C'est l'expérience. Jean-Jacques montre bien que c'est l'expérience et non pas les mots. Les mots, c'est déjà du conventionnel. Alors, on ne bâtit pas une éducation sur du conventionnel, sur les choses faites de l'homme. Alors, vous voyez, il y a cette chose qui fait que c'est très très difficile. Parce que de savoir à quel moment il y a éveil, devant l'interrogation du gosse, on devrait essayer de comprendre d'où vient cette interrogation. Mais nous savons, nous, à peu près, d'où viennent nos interrogations. Est-ce que ça vient de nos expériences? Est-ce que ça vient de nos lectures? Est-ce que ça vient d'une conversation? Et c'est très différent. Si le mot éternel, éternité, vient du langage, est-ce que c'est l'éveil de l'intellect spéculatif? Non. C'est l'éveil de l'intellect pratique. L'intellect pratique peut s'éveiller par le point de vue de la conversation, par le point de vue du langage. Tandis que l'intellect spéculatif ne peut s'éveiller que par l'expérience. Ça, je crois. Vous voyez, ça explique du reste comment le point de vue d'enseignement de la philosophie qui se fait aujourd'hui à cause de l'imprimerie, par des livres, risque de ne jamais éveiller l'intelligence spéculative. Ça éveille la mémoire. On répète des mots. On ne sait pas ce que ça signifie. On sait ce que ça signifie, mais on ne sait pas d'où ça vient, l'expérience. Je crois, alors c'est une petite question, vous voyez, je ne peux pas l'affirmer de façon absolue. Est-ce que l'intellect spéculatif peut-il s'éveiller par le langage ou ne peut-il s'éveiller que par l'expérience? Oui. C'est intéressant ça, point de vue éducatif. Il ne faut pas exagérer, il ne faut pas tomber dans le purisme. Pour comprendre ce que c'est que le jugement d'existence, regarder un arbre, toucher un arbre, il suffit de se toucher, le jugement d'existence, j'existe, c'est suffisant, je touche mon corps. Je touche mes clés, je vois que c'est pas mon corps. Ça peut changer de poche, donc ça va. Objet fabriqué par les hommes. Alors le jugement d'existence peut-il commencer par des œuvres d'art? Ou ne veut-il commencer que par la nature? Il y a toutes ces questions-là qui doivent être regardées avant de saisir l'éveil de l'intellect spéculatif. Chez l'enfant, à quel moment? Parce que nous avons, nous, une culture et une civilisation qui est la civilisation du livre. Et maintenant, la culture, la civilisation du cinéma et de la télévision. Les gosses, aujourd'hui, sont plus éduqués par la télévision que par leur mère ou leur père. Parce qu'avant, quand tu es dans un milieu un peu cultivé, les conversations de table, les conversations en dehors avec le père, la mère ou les frères aînés, éveillés à regarder les choses. Aujourd'hui, la télévision, forme sûrement une civilisation nouvelle qui aura beaucoup, beaucoup de peine à découvrir le jugement d'existence. Surtout si on pousse avec toutes les choses modernes actuelles pour jouer un jeu à l'égard du personnage qu'on est, de remplacer la personne par le personnage qui joue et qui entre dans un jeu purement imaginatif. Donc ce sera beaucoup plus difficile de retrouver le « je suis » qui ne joue pas de jeu et qui n'a rien d'imaginatif s'il est lié à ce « si » et si le jugement d'existence « si » est vrai. Et donc regarde la réalité et non pas seulement les réalités artistiques. Mais ce que Nietzsche a très bien senti. Il a très bien senti ça. Il a dit, quand je suis dans la ville, je dis l'homme. Quand je suis en face de la mer et de la montagne, je dis Dieu. Bon, il coupe tous les intermédiaires, mais c'est très juste. Celui qui n'a qu'une une culture de télévision, uniquement en face de musées, d'œuvres d'art. C'est pour ça que les musées, à la fois, peuvent jouer un rôle très important au point de vue artistique, et en même temps complètement fausser tout. Parce qu'on ne vit plus de choses premières, on vit de choses secondes. Et le musée fait que ces choses secondes semblent suffire. Le tout est secondaire. Alors quand on vivra dans un climat uniquement imaginatif dans lequel on entre, dans lequel on joue un rôle, on aura une peine énorme de sortir de ce milieu imaginatif pour rejoindre la réalité. Ceci, c'est pour montrer que l'éveil de l'intelligence spéculative est très difficile à préciser à cause du milieu dans lequel on est. Et à cause des livres, de la télévision et de la parole. Si on vit un milieu plus simple, où les tables et la table où l'on mange n'est pas très loin, et où il y a comme possibilité de passer de l'un à l'autre, le jugement d'existence, de la réalité, dans ce qu'elle a de tout à fait premier, se grave beaucoup plus. Ça, c'est sûr. Mais, donc, c'est à partir de là qu'on doit essayer, devant une interrogation d'un gosse, voir cette interrogation correspond à une expérience, ou si l'expérience est lointaine. Parce que qu'est-ce que c'est que l'éternité ? Ça peut très bien se comprendre de multiples manières. La véritable interrogation spéculative, qu'est-ce que c'est que l'éternité ? C'est par rapport au temps. J'ai l'expérience du temps. Alors, est-ce que ce temps, c'est la seule chose qui mesure ce que je suis, mes opérations ? Est-ce que c'est une fuite vers l'infini ? Imaginatif, ou vraiment une question. Ou qu'est-ce que c'est que l'éternité ? Peut-être une question, tout simplement, parce que j'ai entendu parler de ça. Mais songez à l'évangile de la Samaritaine, parce que ça, c'est très, très significatif. Et je suis persuadé que le déraillement qu'a fait cette petite à propos de l'acte de religion, on a regardé plus la manière dont on adorait que l'adoration. Comme ceux qui regardent plus la langue latine ou française plutôt que la louange, plutôt que la liturgie de la messe. Donc le mystère, ça fait dévier et ça empêche de regarder l'essentiel de l'adoration et de l'Eucharistie. On est très dépendant de son milieu. Et surtout pour un gosse. Très dépendant. Et on doit tenir compte de cela. On doit tenir compte de tout ce que représente cette déviation par rapport au jugement d'existence. Parce que tant qu'il n'y a pas un jugement d'existence, il n'y a pas d'éveil de l'intelligence spéculative. Je crois qu'on peut affirmer ça au plan philosophique. Il y a l'éveil de la raison, mais pas de l'intellect spéculatif. La raison s'éveille avec les raisonnements, avec la logique. Or la logique, ça se dit. Vous n'avez pas l'expérience de la logique à l'égard de la terre, à l'égard du feu. Est-il logique? La terre aussi. C'est l'universel qui est logique. Alors la raison peut s'éveiller avec tous les livres, tout le temps, avec les conversations. Discuter avec un gosse, ça l'apprendra à raisonner. Mais est-ce que ça éveillera son intelligence spéculative? Pas du tout. Pas du tout. Est un logicien merveilleux qui comprend rien à la philosophie. Rien du tout. Qui n'a jamais fait un seul acte de connaissance philosophique. Ça se voit, ça. Surtout avec la logique mathématique, qui est une logique plus parfaite. Du moins, plus complexe. Disons pas plus parfaite, plus complexe. Plus éloignée de la réalité. Alors, vous voyez, je crois qu'il faut dire que l'éveil de la connaissance spéculative se fait avec le jugement d'existence. Alors le jugement d'existence, pas nécessairement parfaitement explicite, mais un jugement d'existence. J'ai compris que j'existais. J'ai compris que mon « je suis » relève de quelque chose de très fondamental en moi. Et à partir du jugement d'existence, il y a les interrogations. Mais je crois que l'éveil premier de l'intelligence spéculative, c'est le jugement d'existence. Mais il y a à partir de les interrogations. Parce que toute interrogation n'éveille pas l'intellect spéculatif. Il faut que ce soit une interrogation qui s'appuie sur le jugement d'existence, donc sur l'expérience. Autrement, vous risquez d'échafauder une très belle théorie qui repose sur tout simplement la communication du langage. Le langage me permet d'interroger. Ça, c'est sûr. Sans rien comprendre. Et c'est celui qui reçoit l'interrogation qui doit être assez intelligent pour voir que cette interrogation ne repose que sur de la logique, que sur ce qu'on a entendu, au cours ou autre part. Ceci ne doit pas vous empêcher de poser des interrogations. Je n'ose pas faire l'analyse devant vous de telle ou telle interrogation. Parce que c'est quelqu'un qui l'a fait. Mais je saurais, j'aurais une interrogation qui vient. Ah, je pourrais prendre des interrogations des sœurs de Saumur ici, des interrogations d'ici pour elles, comme ça elles sauraient pas c'est qui. Je mettrai que les interrogations. Il y en a d'authentiques, il y en a de fausses. Les authentiques qui font avancer l'intelligence, c'est celles qui reposent sur le jugement d'existence. Les fausses, celles qui reposent sur le langage. quand je dis fausses, au plan spéculatif, mais elles peuvent faire avancer. Pour la philologie, par exemple, ça peut faire avancer. Ça peut être intéressant, ce point de vue-là. Mais pas au point de vue de la philosophie spéculative. Pas au point de vue métaphysique. Pas au point de vue éthique. Pas au point de vue politique. Oui, alors, là, je vous éveille à quelque chose. Continuez de poser vos questions. Et puis, l'ayant posé, faites à vous-même la critique. Cette interrogation repose-t-elle sur l'expérience ou repose-t-elle sur le langage? Si vous ne savez pas, posez la question à votre parrain. Et s'il ne sait pas, on ira plus loin. C'est comme ça qu'on progresse. Parce que c'est l'éveil de l'intelligence qui nous fait progresser. C'est pas la répétition. La répétition, c'est la mémoire. Vous pouvez répéter des choses, apprendre par cœur. Le Coran, et à partir de là, dire que vous êtes un adorateur de Dieu, pas du tout. Vous avez appris par cœur le Coran. Je dis ça, c'est parce que souvent, il s'apprend par cœur sans qu'on comprenne rien. Alors, c'est une religion plaquée. Ce matin, c'est un modèle. Il ne jaillit pas du cœur. C'est une mauvaise éducation. L'Esprit Saint ne fera jamais ça. C'est pas de l'Esprit Saint, ça. C'est de professeurs primaires qui veulent montrer que leurs enfants savent parfaitement le Coran. Donc, c'est très difficile et je crois que c'est très, très variable. Suivant le milieu dans lequel on est, le milieu religieux et chrétien favorise énormément à l'éveil de l'intellect spéculatif. Ça, c'est sûr. Puisque la grâce mûrit notre intelligence d'une façon étonnante, par la foi. On se pose tout de suite des questions. Vous voyez l'exemple, c'est très significatif. La dernière conclusion de Aristote, Dieu, noésis, noéséos, la pensée de la pensée. Le point de départ de Hegel, la pensée de la pensée. Ça montre comment près de 2000 ans, pas tout à fait, oui, près de 2000 ans de christianisme mûrit l'intelligence humaine à tel point qu'on prend comme point de départ la conclusion d'Aristote. C'est pas bien de faire ça, hein, je ne sais pas du tout, mais c'est significatif, c'est très intéressant. Devoir comprendre comme point de départ d'une philosophie, l'encyclopédie de Hegel. Point de départ, le terme, le sommet de la pensée grecque. Donc on juge que le sommet de la pensée grecque nous est donné immédiatement par la foi. C'est très grave ça. Parce qu'alors, ce sommet reçu dans la foi ne repose sur rien. Philosophiquement parlant, il peut reposer sur ma foi. Alors, à ce moment-là, c'est autre chose. C'est plus de la philosophie, c'est la foi. Et c'est la théologie. Je vous donne ces exemples-là, parce que c'est très important à saisir ça, parce que ça fait comprendre comment une culture chrétienne qui est mal assumée peut dégringoler en très peu de temps. Parce que c'était, voyez, un masque. C'était quelque chose de plaqué. Et ça ne sortait pas du plus profond de l'être humain. C'était une culture apprise, un enseignement appris, c'était pas un enseignement vécu, et c'était pas la démarche que chacun aurait dû faire. La foi, s'il n'y a pas l'intelligence qui la reçoit, peut très très vite sauter. Parce qu'elle n'est vitale. Elle est vitale divinement. Mais elle demande d'assumer la sève humaine de l'intelligence. Et je crois que c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Vous savez, c'est important. Il y a le point de départ et le déclin. Et le déclin est toujours extrêmement intéressant. Je ne dis pas que le philosophe aime mieux le point de départ que le déclin, mais les déclins sont extrêmement intéressants. Alors, comment un homme qui est né dans un milieu chrétien, un jeune homme né dans un milieu chrétien, par les cours qu'il reçoit à l'université, les cours de médecine, parce que c'est peut-être là où les dégâts sont plus grands. Je crois, aujourd'hui, fait qu'il perd la foi. On ne peut pas perdre la foi si on vit de la foi d'une manière profonde. On ne peut pas la perdre par un langage scientifique, de science biologique. C'est impossible, à moins d'avoir rien compris à la foi. Si la foi était un habit, était un masque, était un moule, alors subitement, on vous casse le moule et on voit le païen derrière. Et le païen est intéressé par les progrès de la science. C'est très curieux. Il faut être attentif à ça. Oui, puisque le point de départ et le déclin se tiennent. Forcément, ça ne peut pas être autrement. Alors, ce qui nous intéresse, nous, point de vue éducation, c'est le point de départ. Parce que ce point de départ est quelque chose d'extrêmement intéressant pour nous à saisir. Un véritable éducateur doit être un éducateur qui éveille à la recherche de la vérité pour la vérité. Un véritable éducateur doit rechercher, doit éveiller l'intelligence. Ça n'a rien à voir avec les examens. On peut passer des examens uniquement avec la mémoire. C'est le fort thème. Passe l'examen avec la mémoire. Mais il n'a rien compris. Alors il oublie très vite. Mais le véritable éducateur fait un éveil de l'intelligence. L'éveil de l'intelligence, jugement d'existence. À partir de là, les véritables interrogations. Et plus on avance, l'interrogation permet d'avancer. Et c'est pour ça que Merleau-Ponty dit avec vérité que l'idéaliste n'interroge plus. Alors, l'idéaliste, ce n'est pas l'intelligence spéculative. C'est l'intelligence logique, artistique. L'idéalisme n'est pas la philosophie, c'est une idéologie de droite quand tout le monde est de droite, de gauche quand tout le monde est de gauche, car rien n'est plus sensible au mode que les faux philosophes, que les faux théologiens, parce que au fond, ce qu'ils disent n'a d'intérêt que dans la mesure où ils sont dépendants des modes. Dire, comme je l'ai entendu dans un groupe de jeunes théologiens intelligent. C'est très beau l'âme, mais ce n'est plus sur le marché philosophique. Ce qui prouve que votre philosophie est dépendante de la mode. C'est plus sur le marché, ça ne se vend plus. Alors est-ce que le rôle, si l'âme existe, et si l'âme est capitale pour comprendre ce que c'est que la personne humaine, le philosophe, dans un monde où on ne parle plus de l'âme, devra en parler tout le temps. Réveillez les hommes, vous avez une âme. Qu'est-ce que c'est que l'âme pour vous? Oui. Tandis que dire, ce n'est plus sur le marché. Qu'est-ce qui fait le marché? C'est les philosophes. C'est les philosophes actuels. Ils ne veulent plus parler de l'âme. Pourquoi? Parce qu'ils sont matérialistes ou positivistes. Alors, ils n'en parlent plus. Doit-on lutter contre? On lutte si c'est la vérité. Donc, vous voyez, cette question de l'éveil de l'intelligence spéculative est une question extrêmement intéressante. Mais le résultat, la réponse est impossible. Je crois. Elle est impossible. Il y a quand même une voie d'accès, les interrogations et l'analyse de ces interrogations. Et je crois que quand on pose une interrogation qui vient vraiment d'expérience, l'éveil de l'intelligence est là. Comme l'éveil de l'intelligence artistique. On doit voir ça. Avez-vous une intelligence qui est faite pour la recherche de la peinture, de l'art pictural, de la sculpture ou de la musique. Il faut pouvoir dessiner l'éveil. Et je crois que l'éveil, de partout où l'intelligence est présente, alors l'intelligence est présente dans toutes les ramifications d'intelligence. Vous savez, l'intelligence liée à l'imaginaire, lié aux sensations, lié à l'affectivité. Et l'intelligence qui se sépare de l'affectivité, de l'imagination et des sensations. L'intellect séparé. L'expression d'Aristote est très forte. Le nous séparé. Donc c'est le nous qui est capable de marcher tout seul. À quel moment le nous est-il capable de marcher tout seul? C'est l'éveil de l'intelligence spéculative. Oui. C'est l'intelligence qui s'appuie sur ce qui est. Le réel. Quand l'intelligence s'appuie sur ce qui est directement, elle marche toute seule. Tandis que l'intelligence peut s'appuyer affectivement. Donc, elle peut s'appuyer sur un maître. Ah, voilà. Au point de départ. Elle répète le maître. Elle s'appuie sur le maître. Elle s'appuie sur l'ami. Et elle se développe affectivement. Parce que l'intelligence affective n'aime pas tellement l'intelligence spéculative. On est très heureux avec son ami. Pas besoin d'autre chose. L'intellect, l'imagination, c'est une intelligence qui peut être poétique, qui peut être logique, qui peut être mathématique, et ainsi de suite. Les sensations. Alors, l'intellect qui s'appuie sur l'air peut être artistique. Et puis l'intelligence qui s'appuie sur ce qui est. Seule l'intelligence qui s'appuie sur ce qui est peut se séparer du maître. Le maître a dit ça, mais la réalité, c'est pas ça. Il sépare. il marche tout seul. Tant qu'il s'appuie sur le maître, il reste dans l'opinion. Et une opinion qui peut être très belle, puisqu'il s'appuie sur son sycomore. Dans l'intelligence affective, il s'appuie sur l'amour d'amitié. L'imagination logique, et puis les sensations peuvent être artistiques. Donc quand il se sépare de tout ça, il s'appuie sur ce qui est. Et comment ça marche tout seul? Alors au fond, qu'est-ce qu'on cherche? L'éveil de cette intelligence qui s'appuie sur le réel. Ça confirme bien ce que je vous disais. S'il n'y a pas le jugement d'existence, ceci est, il n'y a pas d'éveil de l'intelligence spéculative.